Eh bien, soyez gentils de me prévenir lorsque la camionnette transportant le siège sera là, et que tout cela se fasse dans le calme pour ne pas perturber la prédication, d'accord? Que tous ceux qui sont à la coordination, tous ceux qui sont donc au service d'accueil, puissent faire très attention lors du transport des sièges, donc de la camionnette, vers les différents lieux où ils devront donc être placés. Que Dieu soit béni, alléluia. Je voudrais souhaiter à chacun de vous un très bon appétit. Vous savez très bien que la meilleure chikwang, c'est la parole de Dieu. Le meilleur foufou, c'est la parole de Dieu. Le meilleur riz, c'est la parole de Dieu. Les meilleures frites, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Eh bien, c'est une nourriture extraordinaire et nous voulons la manger avec appétit. Que Dieu soit béni. J'aimerais revenir sur le texte que nous avons lu hier, avant donc de continuer pour voir une fois de plus combien l'ennemi est très rusé, combien, pour nous humilier, il arrive à nous placer sur le béma, sur le trône, là à Gabata, afin que nous puissions recevoir les honneurs des hommes, afin que nous puissions nous mettre en évidence, nous mettre en exergue. Et croyez-moi, une telle position est une position qui nous expose à la mort. C'est une position qui nous expose aux attaques de la part de l'ennemi. C'est une position, mes amis, qui nous met, eh bien, là, devant l'adversaire de nos âmes. Car la seule manière d'être au bénéfice de la protection du Seigneur, la seule manière d'être à l'abri de toutes ces flèches enflammées de la part du monde des ténèbres, c'est d'être derrière Jésus. Alléluia. Et personne ne peut être derrière le Seigneur, mes amis, s'il n'a pas accepté de renoncer à lui-même, de prendre sa croix et de marcher à sa suite. Gloire à Dieu. Toute tentative de monter sur le trône, quel qu'il soit, eh bien, est toujours un obstacle à l'œuvre de Dieu, mais aussi un grand danger. Non seulement pour l'œuvre de Dieu, mais aussi et surtout pour nous-mêmes. Car là, mes amis, nous nous asseyons et nous donnons l'occasion à l'ennemi de nous achever. Christ est notre bannière, oui ou non? Christ est notre rempart. Christ est notre bouclier. Donc pour pouvoir être à l'abri de tout cela, il n'y a pas d'autre solution que de tout faire, mes amis, pour être derrière lui, être à l'ombre de ses ailes. C'est là que nous pourrions jouir. Et c'est là que nous jouissons, mes amis, de la véritable sécurité. C'est là, derrière lui, que nous sommes environnés de la muraille de feu. Et cette muraille de feu est une protection sûre et absolue. Il n'y a aucune flèche de la part du diable. Il n'y a aucune lance, aucune balle, aucun missile de la part du monde des ténèbres qui pourrait, mes amis, traverser cette muraille de feu. Alléluia. C'est une muraille contre laquelle toute tentative, tout assaut, quel qu'il soit, finit toujours par échouer. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 19, très rapidement. Jean 19, nous n'allons pas tout relire, je voudrais lire juste quelques versets, à partir du verset 9. Ponce Pilate rentra dans le prétoire, ou le prétorium, c'est donc le palais qu'il occupait. Comme je vous ai dit hier, c'était l'ancien palais royal construit par Hérode le Grand, puisque le siège, ou si vous voulez, le quartier général du préfet romain, du gouverneur romain qui représentait l'autorité de Rome dans cette région, se trouvait à Césarée, sur la côte ouest, c'est-à-dire au bord de la Méditerranée. Donc, il avait quitté donc Césarée pour Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, la seule raison plausible, c'est que c'était pour prendre part aux festivités de Pâques. D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « À moi tu ne parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Mais ils s'écrièrent, « à mort, crucifie-le ». Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César ». Alors il leur livra pour être crucifié. Quel aveuglement! Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui s'est dit en hébreu, oh, c'est toujours l'araméen, comme je vous l'avais dit, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Alléluia. Et gloire au Seigneur. L'esprit de Gabata. Voilà un autre danger qui guette l'Église de Jésus-Christ. L'esprit de Gabata. Vivre à l'ombre de la pensée des Gabata, voilà mes amis, une de menaces parmi tant d'autres pour l'Église de Jésus-Christ, quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit, quel que soit le contexte dans lequel elle se trouve. Cet esprit, mes amis, est toujours présent et constituera toujours une véritable menace pour l'Église de Jésus-Christ. Et comme je l'ai souligné hier, eh bien cet esprit des Gabata agit, hélas, dans le chef de tous ceux que le Seigneur a appelés à avoir une certaine visibilité dans son corps. Tous ceux qu'il a appelés à, pour assumer une quelconque responsabilité, que ce soit un ministère tel que lui les donne, à qui il veut, comme sa parole le dit, il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être docteurs, d'être pasteurs, d'être évangélistes. Mais je l'ai souligné également que cet esprit, eh bien, essaye aussi par tous les moyens de distraire tout celui ou toute celle qui a une, ne serait-ce qu'une once de responsabilité dans le corps du Seigneur. Qu'il soit diacre, qu'elle soit diaconesse, ancien, peu importe, responsable de département, tous ceux sur qui repose une certaine responsabilité, ceux-là, mes amis, sont la cible privilégiée de cet esprit des Gabata. Afin de nous permettre de comprendre ce que la Bible a à nous dire concernant la pensée des Gabata, donc je me suis arrêté hier sur l'étymologie du mot, de ce mot-là, Gabata. Je vous rappelle que c'est un terme araméen qui veut dire lieu élevé ou élévation. Donc, les Juifs appelaient Gabata, eh bien, c'est le palais royal que Hérode le Grand avait fait construire, puisque ça se trouvait à l'ouest de Jérusalem, sur une hauteur. Et sur cette hauteur, il y avait donc un tribunal. C'est sur ce tribunal, en grec le Béma, qu'il s'est assis pour essayer de, non seulement de juger le Seigneur, mais toute la fois qu'il était à Jérusalem et qu'il était appelé à émettre à un quelconque, à rendre son verdict, eh bien, il s'asseyait sur le tribunal. Et nous avons donc vu que cette image des Gabata est vraiment une illustration de toute élévation selon les normes et les standards des hommes. Et une telle élévation, mes amis, même si dans un premier temps amène quelqu'un à pouvoir jouir d'une certaine célébrité, d'une certaine notoriété, d'une certaine visibilité, à recevoir des honneurs de la part des uns et des autres, eh bien cette position-là est une position terrible, puisque on finit toujours, tôt ou tard, par se retrouver en train de mordre la poussière. La Bible condamne tout ce qui est élevé au-dessus des hommes et déclare que cela est en abomination à Dieu. Il n'y a qu'un seul qui est digne d'être élevé, non seulement par nos chants, non seulement par nos prières, mais aussi et surtout par notre vie. C'est pourquoi nous ne devons pas simplement nous contenter d'appeler Jésus notre Seigneur, voyez-vous, mais nous devrions eh bien, appuyer cette confession verbale par une vie de soumission à la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Gabata, c'est l'image, c'est l'illustration de toute élévation qui vient de la part de l'ennemi et de la part des hommes. Et l'ennemi sait très bien qu'il y a dans le cœur de tout homme une aspiration tout à fait légitime à l'élévation. Nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, à être élevés, puisque nous sommes faits, non pas pour mener une vie de chenille, une vie de ver de terre. Nous sommes créés, mes amis, pour une vie meilleure, alléluia, pour une vie d'élévation. Mais nous devons comprendre ce que la Bible entend par élévation. La vraie élévation, c'est celle qui répond aux normes, aux critères, à la définition de la parole de Dieu. C'est la seule élévation qui nous amène à la réussite, qui nous amène, mes amis, au succès. C'est la seule élévation qui nous amène de gloire en gloire. La seule élévation qui nous amène, mes amis, à marcher dans des sommets glorieux, alléluia, à tutoyer les hauteurs majestueuses, quelles qu'elles soient, l'élévation de la part de Dieu. Car à Gabata, eh bien, l'homme est mis en évidence. Parler de l'esprit de Gabata, c'est parler, mes amis, de cette pensée, de cet esprit qui cherche par tous les moyens à mettre l'homme sur un piédestal, à mettre l'homme sur un trône, afin que ce dernier se mette lui-même en exergue, se mette lui-même en évidence. L'esprit de Gabata, mes amis, cherche par tous les moyens, surtout vis-à-vis de ceux qui ont été appelés. Quelle que soit la nature de leur appel, comme je l'ai souligné, l'esprit de Gabata essaye par tous les moyens, mes amis, de faire de ces gens-là leur sujet, les sujets de leur propre vie. C'est-à-dire, les amener à un point où ils deviennent le centre de gravité de leur vie. Où désormais, tout tourne autour du moi. Tout orbite autour du moi. C'est donc un esprit dangereux. Voyez-vous, lorsque quelqu'un commence à croire qu'il devient quelque chose, alors là, il s'expose. Mes amis, nous sommes tous sauvés par grâce. Tout ce que nous sommes n'est que le produit de la grâce de Dieu envers nous. Alléluia. Quel que soit notre ministère, quel que soit notre charisme, nous devrions toujours tout faire pour rester au pied de la croix. Car c'est là, à la croix, que nous sommes appelés à être élevés véritablement, comme nous l'avons vu la fois dernière. Alléluia. Donc, à la croix, plutôt, à Gabata, l'homme est le propre directeur de sa vie. Il est le conducteur de sa vie, celui qui fixe le cap. Il est sa propre boussole, son propre GPS. Voyez-vous? Eh bien, l'homme marche comme il veut, comme il entend. Voyez-vous, il peut même utiliser la parole de Dieu. Mais dans la plupart des cas, ça sera toujours pour le servir lui, alors qu'il est assis sur son Gabata. Alors qu'il est assis sur son piédestal, s'il donne des prophéties, ça sera toujours pour attirer l'attention des gens vers lui. S'il dit ceci ou cela, ça sera toujours, mes amis, dans le but de rechercher une quelconque reconnaissance de la part des hommes. Ça sera toujours pour recueillir en retour, les honneurs, les acclamations, voyez-vous, recevoir des paroles flatteuses, des paroles qui les cajolent, les paroles qui quelque part parfument son moi, voyez-vous, les paroles qui deviennent comme une offrande, qu'il reçoit avec sourire, voyez-vous, alors qu'il est assis sur son piédestal. Il voit, il pense que tout le monde, eh bien, est à ses pieds. C'est l'esprit de Gabata. Et aujourd'hui, mes amis, plus que jamais, nous voyons cet esprit frapper de plus en plus dans nos assemblées, dans l'église de Jésus-Christ, où qu'elle soit. C'est ainsi que, par cet esprit, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont presque déifiés. On les considère comme des petits dieux. Voyez-vous? Certes, on ne les appelle pas de dieux. Mais la place qu'on leur donne dans sa vie, eh bien, fait de ces gens-là
de vrai Dieu pour nous.
Nous ne pouvons rien faire si nous ne nous référons pas à eux. Ils deviennent les directeurs de conscience de Jean. Voyez, leur parole devient une parole ex cathedra. Voyez, voilà. C'est une parole, eh bien, qu'on ne peut irréfutable. C'est une parole qu'on doit accepter absolument. Parce que ça vient du bishop, ça vient de l'apôtre, ça vient du pasteur grand P. Ça vient de tout autre homme ou femme de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Gabata, tel que nous l'avons vu, mes amis, hier. C'est donc un esprit qui conduit à la mort. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous apprenions à quitter l'ombre de Gabata, à prendre notre croix et à nous diriger vers Golgotha. Et c'est d'ailleurs, mes amis, un des objectifs de notre séminaire. Ce n'est pas simplement de vous donner toute une foule d'informations sur la manière dont cet esprit agit, comment il arrive à séduire, à distraire les gens, à les manipuler et à les instrumentaliser. Mais l'objectif, c'est certes de nous donner quelques informations, mais surtout de donner à chacun de nous l'occasion de prendre la décision de quitter l'ombre de Gabata, prendre la croix, renoncer à soi-même et se mettre en route vers Golgotha. Alléluia. Car c'est là, et là seul, que l'homme réalise sa raison d'être ici-bas. Il n'y a pas d'autre endroit où l'homme puisse réaliser, mes amis, pleinement la raison de sa présence sur cette terre, si ce n'est qu'à Golgotha et à Golgotha seul. Car à Golgotha, eh bien, le moi rebelle, le moi arrogant, le moi hautain, le moi qui souffre de toutes sortes de maladies comme l'orgueil, comme l'arrogance, la morgue, etc. Là, à Golgotha, le moi est crucifié. Et désormais, c'est Christ qui vit. Or, être chrétien, c'est vivre la vie de Jésus. Être chrétien, mes amis, ce n'est pas un titre. Voyez-vous? Ce n'est pas une couche de vernis qu'on se met sur les ongles spirituels et qu'on montre à tout le monde. Voyez le vernis. Je suis chrétien, pas du tout. Être chrétien, c'est une expérience, alléluia. Et gloire au Seigneur. Donc, mes amis, nous devons tourner le dos à Gabata. Peu importe les avantages. Car croyez-moi, lorsqu'on s'assied sur un piédestal, quelque part à Gabata, c'est qu'on jouit d'une certaine notoriété. Alléluia. On connaît une certaine ascension, oui ou non? Une ascension sociale, une ascension professionnelle, une ascension religieuse, une ascension politique. Mais attention, attention, cette ascension-là, si nous ne faisons pas attention, risque d'être un couteau à double tranchant pour nous. Mais ce que Dieu attend de vous, de moi, de tous les choristes derrière moi, de chacun de vous ici présents, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous puissions quitter Gabata et nous diriger vers Golgotha. Alléluia. Parce que Gabata, c'est la mort. Et aujourd'hui, nous allons voir une première illustration de cet esprit et voir comment occuper une telle position peut conduire à la mort, même à la mort physique. Nous restons toujours dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire dans le livre des Actes. L'Église est à l'œuvre. L'Église avance, la parole de Dieu est prêchée. Beaucoup de gens se convertissent, n'est-ce pas? Et puis voilà, quelque chose va arriver. Nous sommes au chapitre 12. À partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Nous sommes à une époque, au moment où l'Église connaît une très très grande persécution, donc aussi bien de la part de Juifs que des autorités politiques, notamment de la part d'Hérode. Nous sommes donc au chapitre 12, à partir du verset 18 à 24. « Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ?» Vous connaissez l'histoire. Pierre avait été arrêté. Pierre avait été lié, enchaîné, attendant sa mort. Hérode attendait donc que le temps arrive pour pouvoir l'exécuter. Mais c'était sans compter avec le Seigneur. C'était sans compter avec le Dieu que Pierre servait. Cette nuit-là, il envoya des anges, un ange pour le délivrer. Vous connaissez l'histoire. Et Pierre est délivré miraculeusement. Et le lendemain, eh bien, la cellule est vide. Tout le monde se pose des questions. Tout était fermé. Comment expliquer que cet homme, eh bien, est disparu comme ça? Et finalement, il y a eu agitation. Et tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il était devenu. Voilà donc le contexte. Et au verset 19, Hérode, qui l'avait fait arrêter, le fit rechercher, mais il ne le trouva pas. Il fit donc juger les gardes et donna l'ordre de l'exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hier, c'était donc de Césarée à Jérusalem, vous vous rappelez? Voilà, Ponce Pilate qui quitte donc son quartier général, qui va à Jérusalem, qui va s'asseoir sur Gabata. Ici, c'est le mouvement inverse. C'est donc Hérode qui quitte Jérusalem, qui va à Césarée. Mais là aussi, il y a une tribune. Il y a un tribunal. Il y a un béma. Là aussi, il y a un Gabata. La Bible nous dit, il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, là je vais aller tout doucement pour que chacun de nous comprenne. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune, c'est le même mot sur le béma, c'est sur cette même tribune, là à Gabata, que Ponce Pilate s'était assis pour ridiculiser, pour tourner en dérision le Seigneur. Et l'exposer donc à l'insulte, à l'offense des Juifs. Il s'assit à la tribune, il prend la parole et se met à haranguer les foules. Il se met à parler, alléluia, à faire un discours. Écoutez la réaction du peuple. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Je vous ai dit, hein, les dictateurs, on les crée. Les pasteurs adulés, on les fabrique. Voyez-vous? Le peuple crie. C'est pas lui qui a demandé, hein. C'est le peuple qui réagit. Comment? Voix d'un Dieu et non d'un. À l'instant. Un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira. Cependant, j'aime beaucoup le verset 24. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une fois de plus, mes amis, nous voyons là l'illustration de ce qui arrive à quelqu'un qui monte sur le trône parmi les hommes, afin de se comporter comme il était le créateur de ces gens-là. Voyez? Une fois de plus, mes amis, nous voyons quelqu'un qui, à l'ombre des gabatins, va donc, certes, susciter une grande ovation, qui va certes susciter de l'admiration auprès de son peuple, mais qui, en même temps, va donc s'exposer à la mort. Là sur son trône, là sur son piédestal, eh bien cet homme proclame, parle, harangue la foule. La foule est tellement touchée par sa parole, la foule est tellement touchée par son discours, qu'il finit par réagir et par dire que non, cet homme-là, il est plus qu'un homme, c'est un Dieu. La voix que nous entendons, ce n'est pas la voix d'un pasteur, ce n'est pas la voix d'un prophète, c'est comme si Dieu lui-même nous parlait. Mes amis, l'esprit de Gabata amène aveugle le gens. et les amène à s'asseoir sur le trône. Et lorsqu'on est assis sur le trône, on n'a pas d'autre choix que de recevoir de la part des gens toutes sortes, mes amis, toutes sortes de paroles flatteuses, toutes sortes d'éloges, toutes sortes d'honneurs. Et ces honneurs-là, et ces couronnes que les hommes déposent aux pieds de ton Gabata, ce sont des couronnes qui te conduiront à la mort. Hérode n'a pas donné gloire à qui? Pourquoi Dieu a-t-il été si sévère envers Hérode? Pourquoi ne l'a-t-il pas été envers Ponce Pilate? Ponce Pilate était un préfet romain. Il était donc à la solde de Rome. Il représentait l'autorité de l'empereur. Mais Hérode était un roi dans la terre d'Israël. Pour la petite histoire, sachez que c'est le grand Hérode, donc le grand-père de cet Hérode-ci, qui avait fait construire le temple de Jérusalem, le temple dans lequel le Christ est entré. Celui qui avait fait construire ce temple-là, c'était celui, le grand-père, celui qu'on a appelé Hérode le Grand. Donc, lui, il était bien placé pour connaître toute la loi de Moïse. Alléluia! Il était bien placé pour savoir qu'il n'y a qu'un seul qui est digne de recevoir de la part de tous les peuples gloire, honneur, majesté et puissance pour l'éternité. Cela ne peut pas revenir à un homme, car Dieu ne peut pas partager sa gloire. Et dès lors que quelqu'un accepte de monter sur son piédestal, sur son trône, quelle que soit son onction, quel que soit son titre, eh bien, il accepte, mes amis, d'aller tout droit vers la mort. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas tant que nous montions sur n'importe quel trône, mais plutôt que nous acceptions de prendre la croix et que nous prenions la direction de Golgotha, alléluia. C'est là, mes amis, que Dieu nous attend. Dès lors que tu commences à gravir le marche qui t'amène à aller t'asseoir sur le trône, là, à Gabata, eh bien, sache que tu tournes le dos à Dieu. Et là, tu gravis ces marches, non pas avec la puissance de Dieu, non pas avec l'Esprit de Dieu, mais tu gravis ces marches sous l'impulsion des Gabata. Et tu vas, eh bien, de marche en marche. Et toi, tu penses que c'est ça la gloire, tu vas de gloire en gloire. Mais en réalité, tu vas de perdition en perdition. L'ennemi t'a aveuglé. Et tu as cru que cette position est une position d'élévation. Certes, aux yeux des humains, certes, aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, eh bien, ce n'est pas ça l'élévation. Au contraire, c'est la pire des choses. Voyez-vous? Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même. On ne peut pas prétendre renoncer à soi-même et en même temps, acceptez de gravir le marche qui vous conduit à Gabata. Voyez-vous? Ce sont donc deux mouvements tout à fait opposés. Voyez. Dès lors que quelqu'un commence à vouloir courir après la notoriété, et aujourd'hui, mes amis, ce qui nous tue aujourd'hui, eh bien, nous, les pasteurs, nous, les évangélistes, nous, les enseignants de la parole, nous qui avons un certain ministère dans le corps du Christ, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est cette recherche de la célébrité à tout prix. C'est cette recherche des honneurs de la part des hommes. Être reconnu comme étant le plus grand du Congo. Il n'y a pas de plus grand au Congo. Aucun pasteur ne peut dire « je suis le plus grand pasteur du Congo ». Voyez, Dieu nous épargne encore jusque-là, mais je sais pour avoir vécu de l'autre côté, que au Nigeria, ou parmi les Nigériens, ils ont un système de publier chaque année les 10 grands pasteurs. Dans des magazines, hein? Voyez, les 10 grands bishops. Il y a, à partir de toute une série de critères. Voyez? Vous pouvez avoir une grande église, gloire à Dieu, mais être un nain aux yeux de Dieu. Vous pouvez avoir une grande église, comme la
la nôtre. Être une souche dans le jardin du Seigneur. Vous savez, vous connaissez une souche? Vous savez, quand on coupe l'arbre, le petit qui reste là. Oui. La grandeur, selon Dieu, n'a rien à voir avec la grandeur selon les critères des hommes. C'est vrai qu'on peut avoir une grande église qui prospère parce que soi-même, on travaille avec le Seigneur. Mais nous ne devrions pas tirer de conclusions en disant, oh là là là, il est à la tête d'une église de 15 000 personnes, dont c'est un grand bishop. Voyez? Et ça, mes amis, c'est Gabata tout fait. Oui? Je ne vois pas en quoi cela peut donner gloire au Seigneur lorsque on fait tout pour que l'année prochaine, son nom figure parmi les 5 premiers bishops, les 5 premiers pasteurs. En quoi Dieu peut donner gloire ou se glorifier dans de telles conditions? Vous savez, enfin pour ceux qui connaissent, qui évoluent dans le monde de la finance, il y a un magazine, le magazine Forbes, qui chaque année publie par exemple les fortunes des gens, les classements des plus grands fortunés de la terre, les milliardaires, avec leurs chiffres d'affaires, hein, ce qu'ils pèsent en milliards. Voilà, le premier c'est celui-ci, le deuxième c'est celui-là, etc. Et ça, ce sont les gens du monde. Dans le monde, on pèse lorsqu'on a plus d'argent. Oui ou non? Mais, selon Dieu, ce qui fait le poids d'un ministère, ce qui fait le poids d'une vie, c'est la présence de Dieu dans la vie de l'individu. C'est la présence du Seigneur dans le ministère de l'individu. Car celui, comme j'ai déjà eu à le prêcher ici à la Borde, le poids lourd des âges. Lorsque lui est là, personne ne peut nous bouger. Alléluia. Nous pouvons avoir une petite église quelque part dans le fin fond du Matadimayo et être un poids lourd aux yeux de Dieu, parce que le poids lourd aura occupé ou occupera une place importante dans notre vie. Nous devons courir après l'élévation selon Dieu, car toute élévation selon le critère des hommes est une élévation sous l'inspiration de l'esprit de Gabata. Et cette élévation-là va conduire à la mort. Voyez, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de ministères qui sont morts. Des ministères qui autrefois étaient de véritables bénédictions pour les Quinois. J'en ai connu. Des ministères, mes amis, des hommes oints qui parlaient avec onction. Nous étions là à boire, à manger leurs paroles. Et on voyait Dieu agir de manière extraordinaire. Mais avec le temps, ces ministères ont fini par disparaître. Parce que quelque part, on a manqué de sagesse. C'est pourquoi je vous encourage, vous qui sentez un appel, travaillez dans des structures bien établies. N'essayez pas, mes amis, d'agir en électron libre. N'essayez pas d'aller ouvrir une église et de fonctionner en marge des structures établies. Eh bien, ça, vous vous exposeriez vous-même à Gabata. Parce que lorsqu'on est seul, on n'a pas d'autorité, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, eh bien, la tentation est grande, mes amis, de gérer l'Église comme si c'était notre ligablo, de gérer l'Église comme si c'était nos propres affaires. C'est ainsi que beaucoup confondent l'argent de l'Église avec leur propre argent. Ils prennent l'argent de l'Église, se lancent dans les affaires. Prennent l'argent de l'Église, investissent des maisons à l'étranger. Eh bien, ça, c'est l'esprit des Gabata. Maintenant, qu'un pasteur puisse avoir une maison, qu'on lui achète une maison, c'est normal. Mais on ne devrait pas se servir dans le pot comme si c'était notre pot. Voyez-vous? Ça, c'est l'esprit des Gabata qui nous aveugle, mes amis. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous exposés. C'est là que la Bible nous demande d'être prudents. C'est là que la Bible dit que celui qui est debout, s'il a encore la grâce d'être debout dans son ministère, car il y en a dans le ministère, ils ne sont plus debout, ils sont assis. Et quand vous êtes assis, c'est fini, vous ne recevez que deux coups. Pas, pas. Eh oui. Oui. Que celui qui est debout dans sa vie, quand on est debout, on peut marcher avec Christ, alléluia. Mais dès qu'on s'assied, c'est fini, hein.
on se livre soi-même à la merci de l'ennemi.
Que celui qui est debout,
nous dit la Bible, fasse quoi? Fasse attention de ne pas.
Donc, nous, quand nous prêchons des messages pareils, nous nous prêchons également nous. Nous sommes concernés, voyez-vous? Nous sommes concernés parce qu'il y en a qui pensent qu'on les vise. Quelqu'un m'a appelé et dit, pasteur, regardez cette chaîne, on parle de votre église et tout ça. Mais moi, je n'ai pas le temps. Si je devrais, à chaque fois,
entendre les réactions négatives de la part de gens, je ne m'en sortirai pas. Que les gens réagissent négativement, je rends grâce à Dieu.
Amen.
Même le Seigneur lui-même n'a pas fait l'unanimité, donc c'est normal. C'est normal. Mais en même temps, comme j'avais dit à quelqu'un, il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Lorsque vous avez une meute de chiens et que vous lancez la pierre dans cette meute de chiens, le chien qui aboie et c'est celui qui est atteint par la pierre. Parce que si la pierre ne vous atteint pas, vous n'avez pas aboyé. Nous nous prêchons aussi à nous. Je ne suis pas parfait, j'ai mes faiblesses. Alléluia. J'ai mes faiblesses. Donc quand je me prêche aussi à moi. Mais je dois dire à chacun de nous qu'en tant que prédicateur, nous avons la responsabilité non seulement d'encourager les gens, mais aussi de les avertir. Voyez-vous, de les avertir. De les avertir que là, quelque part, ils se trouvent sur une pente qui conduit tout droit vers la mort. Voyez. L'esprit de Gabata est très subtil et très sournois, comme celui de Bélial. Voyez-vous? Eh bien, ce sont des esprits qui sont là, qui arrivent à nous aveugler et à nous amener à nous asseoir sur telle autre tribune, tel ou tel autre trône, et cela pour mieux nous achever. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions prendre la croix et que nous prenions le chemin qui conduit à Golgotha. Alléluia. Vous savez, après sa mort, le Seigneur est apparu à ses disciples. À un moment, c'est dans le chapitre 21 de Jean. Ils sont partis, les disciples, pour aller pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, enfin, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, jusqu'à ce que le Seigneur arrive le matin, et puis va accomplir un miracle, vous connaissez l'histoire. Et puis à un moment, le Seigneur s'adresse à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu ? » Vous connaissez l'histoire. À un certain moment, le Seigneur lui dit ceci. « Pierre, quand tu étais jeune, comme eux là, je suis jeune aussi. » Ah oui, par rapport à l'éternité, nous sommes tous. Voilà, c'est une consolation. Même si au niveau de la tête, ça vire un peu au gris, mais nous sommes toujours jeunes. Alors le Seigneur regarde Pierre et lui dit, « Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. » C'est-à-dire, tu attachais le vêtement toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains, c'est un autre qui t'attachera les vêtements et te conduira là où tu ne voudras pas. Certes, quand nous replaçons ces choses dans le contexte, Jean nous donne l'explication en disant il parlait déjà de la mort qu'allait connaître plus tard l'apôtre Pierre, car il va mourir en martyr à Rome. Mais il y a des leçons là aussi. Dans la vie chrétienne, quand nous naissons, nous commençons comme des enfants, oui ou non? Dieu prend soin de nous. Nous naissons et nous agissons comme étant de jeunes. Étant jeunes, eh bien, nous allons souvent là où nous voulons. Voyez? Et le Seigneur prend soin de nous. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Hein? Les voilà comme ça. Allant partout. Et les parents sont tout le temps derrière pour qu'il n'aille pas tomber ou tout ça. Mais,
Il arrive un temps où nous grandissons. Et grandir, c'est accepter de prendre la croix. Un bébé ne peut pas prendre la croix. C'est ainsi que lorsque quelqu'un se convertit, 1 ou 2 ans, ça dépend, eh bien le Seigneur le choisit. Vous voyez? Donc, il peut jeûner facilement, il peut prier longtemps, etc. Mais avec le temps, la personne va se rendre compte que non, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Donc, plus nous grandissons, plus le Seigneur attend de nous maintenant que nous prenions notre croix et que nous nous mettions à le suivre. Pas n'importe où, mais à Golgotha. L'autre dont il est question, quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, un autre avec grand A. L'autre là, celui le Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous acceptons d'aller à la croix, eh bien notre moi, notre propre volonté crucifiée, nous n'allons plus là où nous voulons. Nous n'allons pas ouvrir des églises à Joburg parce que c'est la vie facile, parce qu'on veut être à Johannesburg, parce qu'on peut manger là, comment, tout ce qu'il y a là, c'est facile. Il n'y a pas d'embouteillage comme ici ou ailleurs. Mais nous allons là-bas parce que nous avons reçu une instruction de la part de Dieu. Amen. Autrefois, nous marchions par nous-mêmes. Mais maintenant, avec la croix, nous n'avons pas d'autre choix parce que lui devient notre boussole. Il a déjà tracé, montré la direction nord. Et la direction nord passe inéluctablement, passe absolument, passe inévitablement par Golgotha. Et Golgotha est la destination. Alléluia. Donc, prendre la croix n'est pas une fin en soi. Il faut aller jusqu'au... Car si nous n'allons pas jusqu'au bout, nous risquons de tomber et même d'abandonner la croix. Et de se dire, si c'est ça la vie chrétienne où je dois constamment connaître des problèmes, alors autant ne pas prendre la croix. Mes frères, mes sœurs, eh bien, prendre la croix, voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons demeurer dans son plan, si nous voulons que sa grâce continue à agir dans notre vie, eh bien, prenons notre croix et dirigeons-nous vers Golgotha. C'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il y a la vraie élévation. Car nous serons véritablement élevés lorsque nous serons crucifiés. Et là, à la croix, nous pourrions leur dire, oui, maintenant je suis élevé. Alléluia. Voilà l'élévation selon le critère de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. C'est que nous puissions aller jusqu'au bout. Voyez-vous, n'a-t-il pas dit, lui, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ce sont des paroles fortes, hein? Il n'est pas digne. Donc pour être digne du Seigneur, nous devons prendre notre croix. Et croyez-moi, la croix, ce n'est pas une mince affaire. C'est d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire. J'ai parlé de ça dans quelques prédications faites ici, où j'ai parlé de la nécrosis et de la mort de Jésus. Vous rappelez, hein, pour ceux qui viennent. Paul dit ceci. Nous portons en nous, dans notre corps, et ce, chaque jour, la mise à mort, c'est-à-dire la nécrosis de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus se manifeste en nous. Si nous voulons que la vie du Christ se manifeste, mes amis, nous n'avons pas d'autre choix que de mourir à nous-mêmes. La mise à mort de Jésus, c'est ça, prendre sa croix et aller jusqu'au bout. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont trouver que tu n'as pas assez de foi. Les gens vont trouver que tu es faible. Mais mes amis, c'est lorsque nous sommes faibles qu'alors nous sommes véritablement forts. Là, la croix, mes amis, le monde a crié victoire. Le diable s'est réjoui. Tout le monde a cru que c'était fini. Car pour le monde, eh bien, la croix, c'est la fin de tout. La croix, c'est l'échec le plus total. C'est la défaite la plus cuisante. Mais aux yeux de Dieu, mes amis, ce qui est sage parmi les hommes est folie devant Dieu. Aux yeux de Dieu, ce qui paraît vulnérable, ce qui paraît fragile, ce qui paraît faible, c'est ce qui est fort pour lui. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira, la croix est folie pour les uns et scandale pour les autres, mais puissance pour nous qui croyons. Alléluia. Nous devons mourir.
Et c'est la seule manière d'être à l'abri de l'esprit de Gabata.
Si vous ne mourrez pas vous-même,
mes amis, eh bien votre moi sera toujours vivant. Et le moi vous conduira, et souvent, dans des endroits où vous aurez l'impression que vous êtes dans le plan de Dieu. Ce que nous oublions souvent, mes amis, c'est que le diable est très rusé. Le diable n'est pas un inculte. Le diable n'est pas un abruti. Hein? Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et quelquefois, nous pensons que le diable, c'est le plus grand ignare qui soit. Il n'est pas ignare. Hein? Il a la connaissance, il est intelligent. Si nous pouvons résister au diable, c'est simplement grâce à la lumière du Saint-Esprit. Alors, puisqu'il est intelligent, alors il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous devrions nous méfier d'abord de nous-mêmes. Car notre premier ennemi, ce n'est pas le diable. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Voyez-vous? Et il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons tout simplement parce que, mes amis, eh bien, le moi est encore vivant. Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Pourquoi? Eh bien, parce que demeurer à Gabata, on va finir par monter sur la tribune, par s'asseoir sur le piédestal. Et quand on s'assied sur le piédestal, comme nos amis qui sont là-bas, eh bien, on commence à devenir l'objet d'admiration de tout le monde. Oui ou non? Parce que quand vous vous exposez, eh bien, vous devez vous attendre à tout. Voyez-vous? Que les gens vous envoient non seulement des paroles, des éloges, mais aussi des flèches. Hein? Et quelquefois, eh bien, nous avons tout le temps des problèmes avec les gens. Vous voyez, les gens nous font mal, etc. Parce que nous nous exposons. Allons simplement derrière le Seigneur. Laissons Jésus devant. Et quand Jésus passe devant, nos ennemis font quoi? Disparaissent. Ils vont nous lancer des missiles. Les missiles arrivent, rencontrent Jésus et ils échouent. Alléluia. Ils vont nous envoyer des flèches. Les flèches arrivent, lui qui est notre bouclier. Ces flèches échouent. Et nous avançons. Et les gens vont finalement se dire, mais c'est pas possible. Cette petite femme-là, elle tient toujours. Qu'est-ce que c'est? Comment expliquer? Ah oui, cette petite femme que tu qualifies de petite. Eh bien, aux yeux de Dieu, elle est une grande dame. Alléluia. Parce qu'elle a accepté de prendre sa croix. Et comme je vous ai dit hier, si nous voulons que le cortège du ciel nous accompagne, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre la croix de Jésus. Le ciel tout entier se met à notre côté. Le ciel tout entier, mes amis, se met le long de notre parcours lorsque nous prenons la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous prenons la croix, alors tout le monde se lève au ciel et tout le monde regarde le racheté. Alléluia. Les enfants de Jésus marchaient. Car aller vers Golgotha, c'est aller vers l'explosion de la gloire du Père. C'est aller, mes amis, pour élever Jésus. Car lorsque nous mourons, alors Jésus est élevé. Mon frère, ma sœur, j'arrive, puisque demain je reviendrai encore davantage, comme ce sera le vendredi de Pâques, là-dessus, je voudrais que nous sachions une chose. C'est que Golgotha reste la destination à laquelle Dieu nous destine. Si nous n'avançons pas vers Golgotha, que nous le voulions ou pas, nous nous dirigerons tout droit vers un trône que l'esprit de Gabata aura préparé pour nous. Ça veut dire que nous allions à gauche, vers le sud, sans la croix, eh bien, nous trouverons un trône, puisque l'objectif du diable, c'est de nous achever, c'est de nous tuer, voyez-vous? Et la meilleure façon de nous avoir, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous amener sur un trône, et de faire croire aux gens que nous sommes spéciaux, comme il a fait avec Hérode. Hérode est monté sur son béma, Hérode a commencé à parler, les gens ont réagi, l'ont considéré comme étant un dieu. Et lorsque quelqu'un prend une posture comme celle-là, mes amis, il va au-devant de la mort. Alors, voulons-nous demeurer en vie? Voulons-nous être à l'abri de l'ombre des Gabata? Eh bien, il n'y a pas d'autre secret que d'accepter de prendre la croix et de se mettre à suivre Jésus. Ce message est valable jusqu'à son retour. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur,
ce qui donne du crédit à ta vie. Voyez-vous? Ce qui donne un sens à ta vie. Ce qui va faire que ta vie puisse avoir du poids, quel que soit ton rang social, quel que soit le niveau, ton niveau intellectuel, quel que soit ce que tu es, ce qui va donner du poids à ta vie, c'est le fait que quand tu auras pris la décision de prendre la croix et de se mettre à suivre Jésus. Il n'y a que ceux qui marchent de cette manière qui sont donc destinés à expérimenter la victoire de Jésus. Alléluia. Nous devons mourir à notre égoïsme. Nous devons mourir à notre orgueil. Nous devons mourir, mes amis, aux ambitions charnelles. Nous devons tout faire pour arriver à dire avec Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit, et Christ ne peut pas vivre en nous. Christ ne peut pas vivre dans notre ministère, dans notre responsabilité, si nous n'apprenons pas, mes amis, à mourir à nous-mêmes. Et mourir à nous-mêmes, c'est ça, prendre la croix. C'est accepter d'aller dans la direction que le Seigneur a tracée. Alléluia. Il y aura des décisions à prendre. Il y aura des choix difficiles à faire. Mais les conséquences seront toujours merveilleuses. Alléluia. Car on ne peut pas prendre la décision de marcher avec le Seigneur et ne pas un jour se réjouir. Oui, il y aura un temps de désert. Mais ce qui est bien, c'est que quelle que soit l'étendue du désert, tôt ou tard, nous arriverons, mes amis, dans le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Dieu ne nous laissera pas éternellement dans les larmes. Mais il y a un temps où nous devons pleurer. Il y a un temps où nous devons mourir. Il y a un temps où nous devons dire non au monde. Alléluia. Non à l'esprit des Gabata. Car lorsque cet esprit frappe, eh bien c'est pour nous entraîner loin du Seigneur. Hérode en a eu pour sa vie. La Bible nous dit, il a été frappé par l'ange du Seigneur parce qu'il n'avait pas donné gloire. Et tout ministère n'a qu'un seul objectif, donner gloire à Jésus et à Jésus seul. Si on chante, on devrait chanter pour donner gloire à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Ne pas chanter pour attirer le regard de gens vers soi. Et c'est ce qui tue aujourd'hui nos musiciens, chrétiens, nos chanteurs. Je me suis fait la réflexion une fois. Nous avons dans le monde anglophone des chanteurs, des gens qui chantent, qui sont au service du Seigneur dans le chant, dans l'adoration, depuis de très nombreuses années. Il y en a qui sont là, ça fait 30 ans. Ils produisent. Comment expliquer que chez nous, un musicien arrive, tout le monde l'acclame, un bon frère, il commence bien, une bonne sœur, une voix d'ange, gloire au Seigneur. Un ou deux tubes, fini. On disparaît. Qu'est-ce qui explique cela? Gabata. Combien ont commencé à être bénis, comme nos jeunes ici, ne vous laissez jamais avoir. Oh, ma belle voix, je vais monter mon orchestre, je quitte la borne. Gabata vous accueillera bras ouverts. Voyez? Pour peu que Dieu commence à utiliser quelqu'un dans le chant, eh bien, vous attendez, vous apprenez une année après, non? Qu'il ne fréquente plus son église. Il n'a même plus d'église. Il ne trouve plus la nécessité d'être sous l'encadrement d'un pasteur. Comme si le fait de chanter, d'avoir une belle voix, le mettait au-dessus de tout. Attention, il n'y a rien qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et j'ai toujours dit, ça je me permets de vous le rappeler. Dans une société, dans une église, où les musiciens sont plus considérés, où ils s'asseyent sur l'estrade pour être vus, contemplés, dans une telle église, eh bien Gabata est à l'aise. C'est qu'on doit restaurer. L'estrade qu'on doit restaurer, le seul qui doit être au-dessus de tout, c'est l'estrade de la parole de Dieu. Lorsque Ezra s'est retourné, voyez, avec Néhémie pour reconstruire, le peuple s'était égaré. La Bible nous dit la première chose qu'ils ont faite, ils ont rétabli l'estrade de la parole. Et Ezra s'est monté. Et à partir de cette estrade, il pouvait être vu par tout le monde. Non pas pour chanter Adonai, Herad ou quoi ça. Non! Il était vu sur cette estrade pour prêcher la parole. C'est comme ça qu'il y a eu le réveil à l'époque d'Ezra, hein, à l'époque d'Ennemie. On a restauré l'estrade de la parole. Et aujourd'hui, mes amis, c'est pourquoi moi je suis très méfiant avec tous ces concerts à gauche, à droite, concerts de louanges, d'adoration, on fait payer aux gens. Les gens doivent venir louer le Seigneur et ils doivent payer. Je suis contre. Et il n'y a aucun verset de la Bible qui justifierait cela. Mais non, qu'on fasse un concert de divertissement chrétien. Appelez-le comme vous voulez. Un moment de réjouissance entre nous, c'est bien. Oui ou non? Mais oui, il y a des gens qui se retrouvent dans des gandans, jouer, à danser, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi les chrétiens ne pourraient pas se retrouver à l'hôtel intercontinental? Enfin, ça a déjà disparu, ça. Comment ça s'appelle? Bon, je ne vais pas faire la publicité. Et se retrouver là-bas, ensemble, autour d'un frère ou d'une sœur qui chante pour le louer, pour adorer le Seigneur. C'est une bonne chose, j'encourage. Mais cependant, si c'est vraiment ça vient de Dieu, est-ce que Dieu ne pourrait pas pourvoir à l'organisation? Si les gens sont touchés dans leur cœur, ils sont venus gratuitement, ils ont chanté, et qu'on leur dit, voilà, nous nous sommes réjouis dans la présence du Seigneur, mais vous devez savoir que cette salle ne nous a pas été prêtée gratuitement. Les instruments, nous les avons loués. Alors nous aimerions faire passer un panier, que tout celui qui aimerait soutenir cette œuvre fasse quelque chose. Je suis convaincu que lorsque les gens ont été touchés dans leur cœur, la poche s'ouvre sans problème. Oui ou non?
Oui.
Ou alors avant d'organiser le concert, on prie, non? On prie. On ne va pas s'endetter. Pour finalement, il dit, ah, on a pris combien à gauche, à droite? Combien? Ça nous a coûté 5 000. Bon, on va mettre combien? Comme droit d'entrée. Bon, on va mettre 70. Ah, c'est beaucoup. Bon, 60. Mais la Bible nous dit, avant de faire quelque chose, il faut s'asseoir. Il faut regarder si on est à mesure. Oui ou non? Et c'est seulement après on se lève. Si c'est vraiment faire quelque chose. Moi, je voudrais qu'on ait beaucoup de chanteurs chrétiens. Beaucoup de frères et sœurs qui chantent pour le Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'il y ait tout le temps sur certaines chaînes de la musique chrétienne, plutôt que ces histoires, ces danses lascives, scabreuses, tout ce que vous voulez. Hein? Je veux bien, mais il faut que ce soit des hommes et des femmes ouins. Voyez-vous? Mais qui ne courent pas après le gain. Qui ne soient pas gagnés par un esprit de lucre. On cherche maintenant par le chant à gagner sa vie. Voyez, on a regardé tel musicien du monde roule dans une Hummer. N'est-ce pas? Ah, nous aussi, nous sommes les enfants du roi des rois. Tout l'or, tout l'argent appartient au Seigneur. Nous devons rouler, je dois rouler au nom de Jésus. Alors quand on apprend qu'il y a un séminaire sur la prospérité financière et matérielle, ok, on y va. Mais non, si vous en avez, oui, il n'y a pas de problème. Mais vous ne devez pas vouloir parce que vous avez vu tel musicien du monde rouler dans cette Jeep américaine. C'est comme ça que les gens arrivent à voler. Oui. Oui, mais ça conduit au mensonge. On leur donne des enveloppes, ils vont dire partout, nous allons organiser un concert. Très bien. Mais les gens donnent. Bon, il faut respecter leur volonté. S'ils ont donné pour le concert et que vous voulez utiliser cela pour aller à Lubumbashi, il faut leur dire. Il faut leur dire. Mais oui. Pourquoi n'avoir pas dit clairement que vous aviez envie d'aller voir votre maman à Lubumbashi? Alors vous utilisez des formules, oui, mais nous devons faire un concert. Mais dans son cœur, on sait que c'est pour voyager. Et quand on a ça, frère, le concert, ah non, on a postposé ça, nous prions. Oui, mais il fallait prier avant d'aller lui demander l'argent. Donc vous voyez, mes amis, et c'est comme ça qu'on se met à mentir. Et petit à petit, comme on a vu, la conscience est éduquée, oui ou non? À force de mentir, la conscience vous interpelle, vous la faites taire. À un certain moment, la conscience va se taire. Elle ne va plus vous interpeller. Et vous allez trouver normal de dire une chose et de faire une autre. Vous dites aux gens, faites ceci. Et après, vous envoyez cela. Non. Gabata, c'est un vrai danger. Alléluia. Et nous devons le combattre absolument. Et je voudrais à l'instant demander à chacun de nous de se mettre debout. Et je voudrais que nous prions, une fois de plus, pour que cet esprit nous mette à l'abri. Plutôt, le Seigneur nous mette à l'abri de cet esprit. Que nous soyons à l'abri de toutes ces attaques. Que nos yeux soient uniquement sur Jésus et Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Alors tous ensemble, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Devant l'agneau, eh bien, tout genou, cet esprit qui a gagné certains d'entre nous. Peut-être tu es rongé tu aspires qu'à des grandes choses. Tu veux être le plus grand prédicateur qui soit vu. Quand vous passez, tout le monde crie. Comment on dit Mopao? Le grand Mopao spirituel. Vous voyez? Si c'est peut-être ton cas, demande au Seigneur, aspire à des choses humbles, ou alors des choses grandes selon Dieu. Alléluia. Alors tous ensemble, nous allons prier. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous aide à briser toute influence de cet esprit des Gabata parmi nous, autour de nous. Ô Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons, ô Dieu, te dire combien nous sommes heureux. Heureux d'apprendre qu'avec toi, Gabata n'a plus de place auprès de nous. Seigneur, tu nous appelles à prendre notre croix et à aller vers Golgotha, car cela, le lieu de la crucifixion de notre moi, c'est le lieu de la mise à mort de notre moi. Et dans la mesure où nous mourrons à nous-mêmes, alors nous vivrons pour toi, Seigneur. Plus nous serons exposés à la croix, plus, Seigneur, nous serons élevés. Donne-nous de rechercher l'élévation qui vient de toi. L'élévation selon tes critères. Seigneur Jésus, Seigneur Tout-Puissant, viens à notre aide. Viens à notre aide. Viens nous soutenir. Dans le nom de Jésus, nous brisons l'influence de cet esprit d'égoïsme, cet esprit narcissique, cet esprit démoniaque, cet esprit qui fait des ravages. Dans le nom de Jésus, nous voulons avoir des pasteurs humbles, des serviteurs humbles, qui aspirent à des choses humbles, qui recherchent l'élévation qui vient de toi. Ô Jésus, ô Seigneur, oh, gloire à toi Seigneur, oh, nous bénissons ton nom. Je voudrais qu'ensemble nous proclamons la victoire de la croix, la victoire de Jésus sur tout esprit démoniaque, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus sur le moi rebelle, sur le moi égoïste, sur le moi orgueilleux, sur le moi hautain, sur le moi critique, dans le nom de Jésus. Alléluia. Car en lui, nous savons qui nous sommes. Nous sommes les vainqueurs. Allons à Golgotha. C'est là qu'il y a la victoire. Oh, alléluia. Puisque Jésus a vaincu à la croix, nous allons chanter de tout notre cœur. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Alléluia.